On continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. On est rendu à Amos. Alors, dans nos premières leçons de chacun des livres, en fait, on procède toujours de la même façon. On regarde l'arrière-plan du livre, son but, le but principal, le plan. Il y a des thèmes majeurs à l'intérieur de chacun des livres de la Bible. Il y a des personnages clés, des versets clés. Il y a toujours des leçons morales pour le peuple de Dieu de l'époque et aussi pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et dans chacun des livres aussi, il y a toujours, à quelque part, des mentions ou des idées qui pointent vers la personne de Jésus-Christ. Alors, l'arrière-plan. On va lire le psaume 89, les versets 15 et 16. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Alors l'Éternel est un roi juste sur toute la terre. Parce qu'il est juste, sa domination sur la terre est juste et droite. Il châtie le mal chez les individus et chez les nations. Les péchés individuels recevront leur punition individuelle, notamment lors du jugement dernier. Ça dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Car il nous fait tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » En revanche, les péchés commis par les nations sont châtiés de façon spécifique dans cette vie. Sous le gouvernement de Dieu, les péchés nationaux reçoivent une sanction nationale. Proverbes chapitre 14, verset 34 nous dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Le nom Amos signifie « porteur de fardeau ». Le fardeau de ce prophète est d'annoncer les châtiments. Il est le messager chargé de délivrer des paroles graves et solennelles à une époque marquée par la recherche du plaisir et des avantages personnels et aussi par l'impiété. Les nations les plus proches d'Israël seront châtiés pour leurs graves péchés. Mais Israël, le peuple que le Dieu vivant s'est acquis et qu'il a aimé, fait l'objet de la censure la plus véhémente. En effet, il n'a pas l'excuse de l'ignorance. Romains 9, versets 4 et 5 nous dit « Ce sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la lutte, le culte, les promesses et les patriarches. Parce qu'Israël a si gravement péché sur le plan religieux comme sur le plan moral, aussi bien vis-à-vis de Dieu que des hommes, il sera puni plus sévèrement. » Dans le verset 2 du chapitre 3, ça dit « Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Les enfants d'Israël sont idolâtres, immoraux, ne se refusent rien et sont satisfaits d'eux-mêmes. Amos les reprend et les avertit du jugement imminent. Bien que rempli d'annonces de jugement et de reproches, le livre d'Amos présente de merveilleuses manifestations de la miséricorde et de la grâce divine. Les jugements sont ponctués d'appels à la repentance, une remarquable preuve de miséricorde et de grâce conclut toute la prophétie. Malgré les péchés et les manquements horribles des Israélites, Dieu n'oubliera pas ses anciennes promesses. Il honorera ses engagements. Un reste d'Israélites sera préservé. Le livre d'Amos contient donc de superbes exemples de la bonté de Dieu envers un peuple indigne et une nation misérable. Alors l'auteur, le prophète Amos, écrit la totalité du livre qui porte son nom. Il est originaire de Tekoa, à une vingtaine de kilomètres au sud de Jérusalem et à une dizaine de kilomètres au sud de Bethléem, un bourg qui surplombe la mer Morte. Il appartient donc au royaume de Juda, la partie sud du royaume divisé. Tekoa se trouve dans une région rurale et n'a peut-être pas de maison et peut-être pas de maison en dur. Les bergers et leurs familles vivent dans de petits villages de tentes. Il est possible que le nom Tekoa ait signifié campement de tentes. Amos est ce qu'on pourrait appeler un diamant dans sa gangue, direct dans sa façon de vivre et de parler, un homme de la campagne, un berger qui cultive des sycomores. Ceux-ci poussent principalement dans les plaines. Ces arbres donnent des figues sauvages dont seuls les gens les plus pauvres se nourrissent. Certaines versions traduisent le verbe « cultiver » par « inciser », car il fallait inciser le fruit sur l'arbre pour qu'il mûrisse. Il semble que l'Éternel, sans avertissement ni préparation, confie à Amos la tâche de prophétiser contre Israël, le royaume du Nord. Amos le reconnaît lorsqu'il déclare « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. » Comme arraché à son travail agricole, il se trouve investi des responsabilités de prophète. L'appel de Dieu à Amos était irrésistible. Nous lisons dans le verset 8 du chapitre 3 « Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? » Amos illustre de façon particulièrement adaptée la souveraineté et la sagesse de Dieu dans le choix de ses serviteurs. L'Éternel est tout à fait capable d'appeler comme prophète et prédicateur aussi bien des hommes vivant sous les tentes de bergers que ceux qui sont à la cour des monarques. Amos est berger, un ouvrier ordinaire, contrairement à Ésaïe, proche de la cour royale, ou à Jérémie, le sacrificateur. Le Seigneur appelle et équipe chacun pour la tâche qu'il lui confie. Bien qu'humble berger, Amos possède une intelligence développée, un esprit vif et une facilité naturelle en matière de communication. Il parle de façon extrêmement imagée. Il dépeint son appel à l'office prophétique comme le rugissement d'un lion à ses oreilles. Il compare un chariot chargé de gerbes, le cœur lourd de l'Éternel à cause du péché du peuple. Le salut accordé de justesse à un reste fidèle est décrit comme l'œuvre d'un berger qui arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille. Il décrit le refus d'écouter les paroles du Seigneur comme une famine naturelle. Amos a beau être d'extraction modeste, il manifeste tous les signes d'un esprit cultivé. Il connaît bien les Écritures. Il est bien au courant de la scène politique. Il sait ce qu'est la pression de la société. Il comprend le cœur humain. La date de composition du livre. Amos était prophète durant les règnes des rois Ozias sur Juda, 792 à 740 avant Jésus-Christ, et Jéroboam II sur Israël de 793 à 753 avant Jésus-Christ. La plupart des érudits de la Bible s'accorde pour voir la date probable de rédaction du livre d'Amos entre 760 et 753 avant Jésus-Christ, approximativement 32 à 38 ans avant la déportation d'Israël en Assyrie. Troisième point, on va regarder le cadre et la période historique. Dans ses premiers mots, le livre d'Amos se situe clairement dans le déroulement de l'histoire. parce que ça dit au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Alors, ce séisme dut être exceptionnel, car le livre semble y faire de nombreuses références. Il est encore mentionné 250 ans après, par exemple, dans Zacharie, chapitre 15, verset 5. Amos prophétise sous les règnes prospères de Jéroboam II d'Israël, qui comprend les 10 tribus du Nord, et d'Ozias, ou d'Azaria, le roi de Juda, 792 à 740 avant Jésus-Christ. On y trouve un bref récit du règne de Jéroboam II, en 2 rois, chapitre 14, verset 23-29, et du règne d'Ozias, en 2 rois, chapitre 15, verset 1 à 7, et dans 2 chroniques 26. Jéroboam II étendit les frontières d'Israël. Après sa victoire contre la Syrie, le pays retrouvera ses frontières d'avant, conformément à la prophétie de Jonas. Mais les succès militaires et la prospérité économique favorisèrent le matérialisme, la cupidité, l'immoralité et l'injustice. Il n'y avait pas d'empire mondial à cette époque. L'Égypte, la Syrie et l'Assyrie et Babylone n'étaient pas assez puissantes pour constituer une menace pour la région. Bien que vivant dans le royaume de Juda, Amos fut envoyé prophétiser en Israël. C'est comme si un paysan était arraché à ses bœufs en Auvergne et envoyé sur les marches de Notre-Dame de Paris pour prophétiser contre la France. C'est spécial, autrement dit, un cultivateur qui s'en va dans la grosse ville. Le lieu. Amos prophétise à Bethel, à une 20aine de kilomètres au nord de Jérusalem. C'est là que, bien des années plus tôt, Jacob eut sa mémorable rencontre avec Dieu. Après avoir reçu une révélation encourageante par un songe, Jacob nomma ce lieu Bethel, ce qui signifie « maison de Dieu ». Jéroboam Ier avait fait de Bethel des centres de la fausse religion. Après le schisme, en 930 avant Jésus-Christ, il institua une religion corrompue afin de sauvegarder l'unité de son royaume, les 10 tribus du Nord. Il ne voulait pas que ses sujets aillent adorer Dieu Jérusalem dans le royaume de Juda, craignant que ses pèlerinages les incitent à se mettre sous l'autorité du roi de Juda dans son opposition à son règne. Il risquait alors d'être exécuté pour trahison. Il fit donc 2 veaux d'or et dit aux représentants des 10 tribus du Nord, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et il offrit des sacrifices sur l'autel. » J'ai mis un petit tableau à la page 5 pour situer un petit peu l'époque d'Amos par rapport aux deux groupes, la tribu du Nord et la tribu du Sud, pour cadrer ça en détail. Ça, c'est des choses qui aident beaucoup quand vous venez pour étudier un livre en profondeur, pour comprendre la situation politique, où il était situé, quel prophète était là, quel roi était là. C'est important. On est rendu au deuxième point, le but principal du livre d'Amos. Le peuple d'Israël interprétait la prospérité dont il jouissait comme un signe de la protection et de la faveur divine. Or, Dieu ne pouvait pas approuver les injustices qui résultaient de cet afflux de richesses. Seuls les riches en profitaient et vivaient dans le luxe, les pauvres étaient exploités et s'appauvrissaient encore plus, la classe moyenne disparaissait. Avec la richesse, les vices se développaient, l'immoralité, l'alcoolisme, les sacrilèges. Ils avaient trahi leur vœu d'alliance avec l'Éternel. Le résultat de leur désobéissance et de leur manque de miséricorde amène le jugement de Dieu, c'est-à-dire leur destruction par une nation étrangère, la Syrie. Cependant, Dieu est miséricordieux. Le jugement sur Israël n'est pas le dernier mot du Seigneur. Amos leur fit apercevoir une lueur d'espoir. Dieu les préservera et restaurera un reste d'Israël qui retournera dans la terre promise et les fera demeurer là pour toujours. Amos 9, 15 dit, « Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. » Alors, le numéro 3, je vous ai mis le plan. Il y a deux plans. Il y a le plan succinct, donc très court, divisé par section. Quand on lit le livre et qu'on le réétudie, ça, c'est vraiment bon de se mettre ça sous les yeux parce que vous voyez la structure du livre. Alors, je vous laisse regarder ça, la page 6 et 7, le plan du livre, à la fois le plan succinct et le plan détaillé. On arrive au quatrième point, les thèmes majeurs. Donc, la justice sociale. Le message constant des Écritures est que le peuple de Dieu doit se soucier des pauvres, de la veuve et du faible. Les prophètes de l'Ancien Testament traitaient l'injustice sociale comme un péché aussi grave que l'idolâtrie, comme Amos le démontre dans sa prophétie. Autre thème majeur du livre, l'adoration appropriée et convenable. Dieu ne veut pas d'adoration insignifiante, froide, formelle et exécutée sans la présence du cœur et performant uniquement dans le ritualisme. L'adoration exige l'implication entière de tout l'être et doit se faire en esprit et en vérité. Autre thème majeur du livre, celui de la souveraineté de Dieu. Le jugement de Dieu s'exerce à la fois sur les nations et sur son peuple. Non seulement les nations sont soumises à son jugement, mais elles obéissent à ses ordres en exécutant le châtiment d'Israël. Elles envahissent le pays, ravagent les armées d'Israël et de sa population, s'emparent de son territoire et détruisent ses villes et exilent ses chefs. Dieu manifeste sa puissance souveraine dans tous les domaines de l'univers. Il est impossible d'échapper à son jugement, ni dans les profondeurs de la mer, ni sur les hauteurs des montagnes, ni dans la tombe, ni dans les cieux. Quatrième thème majeur, celui de la parole de Dieu. Amos, comme les autres prophètes, a confiance en la puissance et en l'efficacité de la parole divine, telle qu'elle est révélée par l'intermédiaire des prophètes. Lorsque le Seigneur parle de sa demeure, la terre réagit et tremble. Le rugissement du lion exige une réaction, mais Israël pensait pouvoir ignorer la parole de Dieu telle qu'elle avait été révélée par ses serviteurs les prophètes. Les personnages clés, on a le prophète Amos, on a les rois et les peuples d'Israël et de Juda, et aussi les nations qui les environnaient. Dans les versets clés, on a Amos 3:2, « Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. » Amos chapitre 5, versets 14 et 15, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. » Les leçons pour le peuple de Dieu. L'appel de Dieu au peuple d'Israël à l'époque d'Amos demeure la grande actualité et très pertinent pour nous également. Amos défia le peuple à adorer avec leur cœur et à exercer de la miséricorde envers les pauvres et les malheureux. Comme peuple de Dieu, nous devons nous soucier des pauvres et chercher la justice sociale. La place et la présence de Jésus-Christ, le relèvement de la tente de David, Jacques, le frère du Seigneur, est l'une des colonnes de l'Église de Jérusalem, comme on peut le voir dans Galates 1, versets 1 chapitre 1, verset 19 et chapitre 2, verset 9, cite Amos dans son intervention de la conférence de Jérusalem. Les responsables des églises s'étaient assemblés à Jérusalem pour déterminer s'il fallait que les nations, que les païens qui se convertissent, se fassent aussi circoncire et observent la loi de Moïse. L'apôtre Pierre ne voyait aucune raison pour imposer le judaïsme aux chrétiens d'origine païenne, alors que Dieu les avait déjà sauvés et leur avait donné le Saint-Esprit, abolissant ainsi toute distinction entre le juif et le non-juif. Jacques appuie l'argumentation de Pierre en citant Amos, qui dit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. » Dans Actes 15, versets 16 et 17. La prophétie, telle qu'on la trouve en Amos, est celle-ci. On lit dans le chapitre 9, versets 11 et 12. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. » Les différences constatées entre les deux textes s'expliquent par le fait que Jacques cite Amos dans la traduction grecque de la Septante. Mais il n'y a aucune divergence profonde quant à la signification. Les mots « Édom » et « Adam », qui veut dire « l'homme », sont très proches en hébreu. Signifie « rouge » pour Édom, et alors qu'Adam signifie « homme », qui signifie « terre rouge ». Jacques donne une interprétation remarquable de la prophétie d'Amos. En substituant « homme » ou « humanité » à « Édom », il montre que le prophète vise les nations. Le relèvement de la tente de David s'opérera quand Dieu lui-même attirera à lui les nations sur lesquelles son nom est invoqué. Autrement dit, par l'élection de la grâce dont bénéficieront les païens. Le relèvement de la tente de David, la réparation de ses brèches et le redressement de ses ruines ne s'appliquent pas seulement à la nation d'Israël, mais concernent l'inclusion des nations. Depuis très longtemps, Dieu a décidé l'acceptation des païens et les a inclus dans le grand plan d'Israël, celui de l'édification de son temple sur la terre. Les croyants de toutes les nations doivent être accueillis dans le sanctuaire d'Israël, qui, après le jugement, sera rétabli. Jacques expose cette idée à l'Église alors que l'ancien temple n'est pas encore détruit et que l'annonce du nom de Dieu à toutes les nations vient juste de commencer. L'interprétation qu'il donne de la prophétie d'Amos est inspirée par le Saint-Esprit. Sinon, elle n'apparaîtra pas sous cette forme dans les Saintes Écritures. Cette référence indiscutable à l'Ancien Testament met fin à la discussion en montrant que, de tout temps, Dieu a eu l'intention de sauver les élus parmi les païens. Il est intéressant de remarquer que Jacques parle des prophètes au pluriel, car il déclare, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Acte 15, verset 15. En présence des responsables d'alors de l'Église universelle, il donne ainsi la clé d'interprétation des prophètes en citant un passage d'Amos comme représentant tout cet aspect de la prophétie et en la spiritualisant. Nous pouvons donc affirmer en toute confiance que c'est ainsi que le Saint-Esprit veut nous voir interpréter les prophéties de l'Ancien Testament, c'est-à-dire spirituellement accomplies en Christ et dans son Église. Le dernier point qu'on va regarder, le reste d'Israël. Le thème biblique du reste fidèle est étroitement associé à la prophétie de l'Église de Christ. en tant que communauté regroupant les croyants d'origine juive et ceux d'origine païenne. 750 ans avant la naissance du Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ, Amos annonce la fin du royaume d'Israël, celui des dix tribus du Nord, sans manquer toutefois de prédire la délivrance des restes de Joseph. Tout au long de l'histoire, l'Éternel s'est réservé un reste. À l'époque du déluge, ce reste se constituait de 8 personnes seulement. Du temps d'Élie, et contrairement à l'évaluation que le prophète avait faite de la situation, l'Éternel lui révéla qu'il laisserait en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. Amos dépeint de façon très imagée la préservation d'un reste fidèle comme l'œuvre d'un berger qui arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille. Ésaïe prophétise le retour du reste d'Israël de la captivité et ajoute qu'ils cesseront de s'appuyer sur ce qui les frappait et s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Michée s'inscrit dans ce même courant de pensée, mais il ajoute les paroles de consolation et d'espérance. Michée 2, versets 12 et 13, « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes, celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » Lorsque Paul évoque la préservation d'un petit groupe de croyants qu'il qualifie de reste selon l'élection de la grâce, dans Romains chapitre 11, verset 5, les promesses de Dieu sont certaines. Il y aura toujours des témoins. Il n'y aura jamais de génération privée de croyants. Non seulement il y aura toujours des croyants, mais certains d'entre eux seront des Juifs. 3 applications. La première, méditons sur les exigences de Dieu quant au culte que nous lui offrons, qu'il soit vrai, entier et exalté. Prions l'Éternel qu'il nous débarrasse de toute partie de notre culte qui soit falsifiée et indigne de lui. 2 application, soyons conscients de nos devoirs de charité et de miséricorde envers les pauvres et les méprisés de la société. Que l'Éternel nous sonde pour nous montrer si nous sommes en conformité avec sa volonté dans ce domaine. Et 3 application, fuyons le matérialisme. Il est facile d'oublier le Seigneur lorsque nous sommes dans l'abondance et nous pouvons plus facilement déraper dans le péché. Adorons le Seigneur pour sa grâce, sa souveraineté et sa miséricorde. Amen.
Amen.